6h40 sur France Culture, l'heure du journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Anne Lorchouin.
Alors nous allons revenir avec vous ce matin sur la montée des populismes dans le monde qui invite à la réflexion sur les notions de peuple et de démocratie.
Populisme, je cite, populisme et démocratie forment un couple singulier, c'est ce que, ainsi que résume Jean-Luc Nancy dans les pages idées de Libération. Un couple singulier, donc le premier récuse la péjoration que son nom représente pour la seconde, dont il dénonce l'hypocrisie. La seconde se dit seule forme légitime d'existence commune. Les deux s'affirment souverainement populaires. Soulignant l'indécision de leur sens respectif à l'époque de leur opposition virulente dans le discours ambiant, le philosophe se demande de quel peuple parlent ensemble et séparément populisme et démocratie. Le populus latin et le demos grec, qui malgré d'importantes différences se sont parfois traduits l'un l'autre, ont un trait commun. Il s'agit de l'ensemble de ceux qui appartiennent à une collectivité organisée en tant que réalité publique, res publica. Celle-ci est une totalité organique qu'on l'identifie comme cité, nation, patrie, État ou précisément République. Le mot peuple est donc une sorte de tautologie de l'appartenance, même si une distinction s'est faite entre l'autorité publique ou la représentation démocratique et la frange du peuple désignée comme populace ou plèbe, une distinction où ne cesse de se jouer des attractions et des répulsions. Car, souligne Jean-Luc Nancy, l'identité du peuple et de la démocratie est de raison, elle n'est pas donnée, il faut la concevoir et l'instituer. Le dénommé contrat social ne va pas de soi, il s'apparente à un processus d'accouchement. Le peuple doit en somme se produire comme chose publique ou commune, alors même qu'en lui se presse une indomptable anarchie. Cette contradiction est fondatrice dès lors que la société n'est pas pensée comme un ordre donné, déjà donné, théocratique ou autoritaire, ou encore nomocratique, patriotisme, nationalisme, autonomisme. On peut rappeler à ce sujet les pages célèbres de la phénoménologie de l'esprit, où Hegel évoque le règne de la liberté absolue instaurée par la Révolution française. Le peuple régicide tue toute forme d'unité dans la personne du roi, devenu un temps roi des Français après avoir été le roi de France. Et lorsque le fondement de l'unité fait défaut, il n'y a plus ni France ni Français. C'est pourquoi Robespierre va s'employer à éliminer toute forme d'opposition afin de reconstituer l'unité du peuple. Mais, poursuit Jean-Luc Nancy, les représentations autocratiques font retour également dans les moments de trouble et de crise de la démocratie, lorsque se lève le ressentiment, l'échec de la démocratie donne du mécontentement, de l'aigreur et de la révolte au peuple qui ne se reconnaît plus comme peuple. Dès lors, le populisme veut dire une démocratie vengeresse de son propre échec. Et c'est cet échec qu'il convient de scruter. Pour le philosophe, il renvoie au manque de réalité démocratique dissoute dans une gigantesque transformation des conditions de vie de toute la population humaine et plus largement vivante. Cette transformation se nomme technique et comprend en elle aussi bien les techniques financières et juridiques que les techniques mécaniques, biologiques et informatiques. En gros, ce que Foucault regroupait sous le concept de biopolitique. Au stade actuel, conclut Jean-Luc Nancy, un état déjà sérieusement implosif ou explosif de cette transformation est atteint sur tous les plans. Économie, avec l'enrichissement et l'appauvrissement exponentiel. Écologie, ressources naturelles excédées, école, avec les neurosciences appliquées à l'éducation. C'est pourquoi la tâche qui nous incombe désormais est de refaire peuple, dit-il, de nous repeupler de toutes les façons imaginables. Une colère mondialisée, titre Philosophie Magazine, une série d'articles sur la montée des populismes aux États-Unis, en Italie, Grande-Bretagne, Allemagne ou Hongrie, dans le cadre d'un dossier sur le gouvernement des élites, en supplément des extraits du livre prémonitoire de Christopher Lasch, La révolte des élites et la trahison de la démocratie. Le titre est une référence directe à l'ouvrage de José Ortega y Gasset, La révolte des masses, écrite en 1930. À l'époque, c'était elle qui était considérée comme la menace contre l'ordre social et la tradition civilisatrice de la culture occidentale. De nos jours, la menace principale semble provenir de ceux qui sont au sommet de la hiérarchie sociale, écrit l'historien et sociologue américain, qui dénonce des élites élites déconnectées des réalités, coupables de ne servir que leurs intérêts et de ruiner l'idéal de la démocratie. Dans la page débat de La Croix, Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite, revient sur la comparaison faite par Emmanuel Macron entre la situation actuelle en Europe et celle des années 30, qu'il trouve contestable, et il pointe l'intérêt politique du président à apparaître comme le champion des progressistes face au camp des populistes, et l'accès au pouvoir de partis qui partagent un même rejet de la démocratie libérale n'est-il pas aussi une conséquence du ressentiment provoqué par l'idéologie du premier de cordée ?